en général, on qualifie de psychédéliques des substances qui ont un effet analogue sur notre fonctionnement de notre cerveau, qui va provoquer le même type d'expérience. Et donc, ce qu'on qualifie de psychédélique classique, ça va être le LSD, certainement la substance la plus connue, la psilocybine, qui est le principe actif des champignons hallucinogènes, donc qu'on appelle parfois plaisamment les magic mushrooms, la DMT, qui est le principe actif du breuvage amazonien ayahuasca, et, ou encore la mescaline, qui est le principe actif du cactus peyote ou du cactus San Pedro, et de quelques autres molécules qui appartiennent, qui provoquent ce même genre d'effet et qui partagent grosso modo un même mode d'action psychopharmacologique.
Pour moi, les thérapies psychédéliques vont être très utiles dans différents domaines, à savoir surtout tout ce qui va être les dépressions, le stress post-traumatique, éventuellement également tout ce qui est... Il y a aussi les addictions, pardon.
L'inventeur du terme psychédélique, qui est un psychiatre britannique, s'appelle Humphrey Osmond, qui a dirigé un hôpital psychiatrique au Canada, donc cherchait les causes biochimiques des maladies mentales, et il avait pensé que les hallucinoses, en tout cas l'expérience provoquée par une dose suffisante de ces substances-là, pouvait peut-être aider les alcooliques à arrêter de boire, en se disant, puisque le délirium tremens, ou parfois enfin, on a des hallucinations, et un alcoolique qui fait ce genre d'expérience peut décider d'arrêter de boire parce qu'il a été tellement effrayé par ses hallucinations que on peut parfois un délirium tremens peut parfois amener quelqu'un à complètement s'arrêter de boire. Donc ils se sont dit, tiens, on va leur faire des hallucinations avec de la mescaline ou du LSD pour voir s'ils arrêtent de boire.
Mais du coup, on peut se demander d'où vient le LSD, genre comment c'est apparu. En fait, tu vois le seigle, c'est un céréal, et bah il y a un champignon qui pousse dessus, ça s'appelle l'ergot de seigle. C'est un champignon hyper dangereux qui au Moyen-Âge a provoqué des tas d'épidémies quand ça se retrouvait dans le pain que les gens mangeaient. Mais à partir de ce champignon, on a fait des dérivés en laboratoire dans l'espoir de développer des traitements médicaux.
Des années 50 aux années 70, les psychiatres travaillait avec ça. C'était utilisé, justement, c'était même très prometteur. Il y avait des résultats absolument faramineux. Sauf qu'ensuite, finalement, il y avait peu d'engagement pour la guerre au Vietnam, parce que justement, les personnes qui touchaient aux psychédéliques se réalisaient qu'on était un, réalisaient qu'on était amour, lumière. Et ils n'avaient pas du tout envie de taper leur petit copain qui n'avait rien fait.
Le premier psychédélique sur les sur enfin la première substance psychédélique que les disons les médecins, les chercheurs, les biologistes ou même les botanistes ont travaillé, c'est la mescaline, qui est le principe actif donc du cactus peyote ou du cactus San Pedro. Je pense que la substance a été identifiée et synthétisée vers la fin du 19e siècle.
La mescaline, c'est ça qui a originé, c'est l'origine de toutes les molécules comme le 2CB, le 2CC, le 2CE, le 2CP, il y a quasiment toutes les lettres de l'alphabet. Alexander Shulgin, qui l'avait testé, bah, on a fait énormément de dérivés.
Dès cette époque, il y avait des médecins qui faisaient des auto-expériences avec du peyote ou avec de la mescaline. Il y a eu une petite vague comme ça de recherche sur l'intérêt que pouvait avoir la mescaline en recherche fondamentale ou pour essayer de trouver les causes biochimiques des maladies mentales, et y compris, pourquoi pas, en thérapeutique. Donc ça a commencé comme ça. Et donc ça, c'est plutôt fin du 19e jusque dans les années 30.
Au début, c'était surtout utilisé dans les milieux intellectuels ou pour soigner certaines maladies mentales. C'est vite devenu populaire, mais après plusieurs abus et accidents, c'est rapidement devenu interdit partout et classé comme stupéfiant.
Entre 1945 et 1965, il y a eu environ, plus de 1000 études portant sur le LSD principalement, mais aussi la psilocybine, le principe actif des champignons hallucinogènes, qui lui a été découvert en 1958.
Les psychédéliques sont considérés comme
drogue.
Pour l'instant, des drogues en France, d'accord. Donc,
pour nous aujourd'hui, ces médicaments, ces substances, aujourd'hui ces substances sont considérées comme des drogues.
Oui. Classées sur la liste des stupéfiants, donc des drogues interdites.
Oui. Or, quel que soit le regard qu'on a dessus, ça ne ressemble pas du tout aux drogues.
Le principe actif qui agit dans le champignon hallucinogène s'appelle la psilocine.
Y a cette classe de molécules, les psychédéliques, qui ne sont pas addictifs. On n'a pas observé de comportement compulsif d'auto-administration, ni chez l'humain, ni chez l'animal.
Les hallucinations provoquées par les drogues ne sont pas liées à des défauts de la vision, liées au cristallin ou à la rétine, comme c'est le cas.
Si on ingère une quantité suffisante de cette substance, on va avoir des visions, que ce soit les yeux ouverts, des déformations de ce que l'on voit, peut-être des apparitions de formes qui ne sont pas là. Et quand on ferme les yeux, aussi des apparitions de formes, de couleurs, d'objets, pourquoi pas d'animaux, d'entités plus ou moins monstrueuses ou magnifiques.
Et c'est là où moi j'ai envie d'élargir les effets bénéfiques justement des psychédéliques, c'est l'ouverture de la conscience, d'accord ? C'est l'augmentation de notre niveau de conscience.
Dans les années 60, et voilà, on connaît l'histoire de tous ces jeunes qui fuguent, qui convergent vers San Francisco, la vague hippie. Des garçons qui portent les cheveux longs, des femmes qui portent des pantalons, ce qui faisait scandale. Ça paraît quand même incroyable, mais c'est bien le cas. Ces gens qui ont décidé que la société américaine consumériste, guerrière, machiste, patriarcale était peut-être pas une bonne chose, et qu'aller faire la guerre au Vietnam, c'était pas non plus une bonne chose du tout non plus. Plus la ségrégation raciale, enfin tout le contexte culturel états-unien. Ces gens-là qui étaient finalement en rupture avec la société conventionnelle, réactionnaire, si j'ose dire. Ils avaient une consommation apparemment de psychédéliques, en tout cas plus fréquente chez eux que ailleurs. C'est disons leur drogue de choix avec le cannabis. Voilà, on sait bien, LSD, cannabis, hippie, voilà, ça va ensemble. Et Ronald Reagan, qui était gouverneur de Californie et qui voyait donc par milliers, hein, des jeunes qui convergeaient vers San Francisco, qui finissaient par camper dans les squares, dans les parcs, dormir dans la rue, et qui avaient les cheveux longs.
Problème de coordination au sein des réseaux de mode par défaut, ce qui s'active quand votre cerveau est au repos, a également été noté. Parce que oui, dans cette région, des neurones qui s'activent habituellement ensemble étaient juste en fait désynchronisés. Et ça, selon les chercheurs, ça pourrait expliquer l'option dissolution de l'ego.
Dans le cerveau, il faut noter qu'il y a une molécule présente naturellement. C'est un neurotransmetteur appelé sérotonine. Ce neurotransmetteur est impliqué dans de très nombreuses zones du cerveau et activités cérébrales. Notamment dans l'humeur, le sommeil, l'émotivité, mais également dans le cortex visuel.
Tout LSD, des zones qui ne sont pas censées communiquer ensemble se mettent à le faire. Ça c'est plutôt stylé, et surtout c'était le cortex visuel qui communiquait le plus avec les autres régions. Une donne qui aiderait encore à expliquer qu'il est possible de voir des choses qui ne sont pas là.
Souvent ici on voit ça avec condescendance. Et c'est des tribus au milieu de la jungle qui se boivent une potion pour... se droguer, quoi, en gros. On assimile souvent ça à de la drogue, alors que ça n'est pas de la drogue. C'est une médecine et il faut la traiter en tant que telle, avec le rituel qui va autour. D'un point de vue mécanique, on fait des choses extraordinaires. D'un point de vue psychologique, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Et moi, je dis toujours que le jour où ces deux médecines se rejoignent, peut-être qu'on passera à l'humanité 2.0.
Je suis toujours intéressé aux chamans, à tout ce qui a une dimension spirituelle. Et les rituels du peyote sont ancrés dans ces expériences-là.
Alors oui, le LSD c'est dangereux, je le sais, mais rien n'est fondamentalement dangereux. Sauf, voilà, peut-être l'uranium.
Si les gens ont une âme, et c'est ce que je crois, le peyote vous y donne accès. Vous pouvez voir et mieux comprendre ce qui se passe en vous-même.
C'est une substance... au goût très amer, qui va avoir des effets hallucinogènes, corporels, et qui va faire comme une sorte de purification, je dirais, du corps, et peut-être de l'esprit aussi, de l'âme aussi.
Si quelque chose vient d'un autre monde, c'est le peyote. Tout le reste est bien terrestre, mais pas le peyote.
D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, que le peyote te connecte avec l'univers.
Il te connecte avec les planètes, la nature, l'air, l'eau.
L'ayahuasca aurait donc des vertus purificatrices et orienterait ceux qui traversent des turbulences. C'est drôlement costaud pour une décoction de plantes.
Trouver du sens à nos vies, on peut trouver du sens, j'ai même envie de dire, et j'ose, à la vie. On obtient des réponses complètement incroyables. Personnellement, j'ai vécu ce que l'on appelle les expériences d'éveil, les expériences du soi, plusieurs expériences du soi, justement, grâce aux psychédéliques. Donc voilà, ma définition de ça, c'est aussi bien l'exploration de la conscience, de notre nature fondamentale, mais également des soins, véritablement des soins.
La première fois, ce que j'ai vécu, j'ai plongé. J'avais l'impression d'être comme une sorte de labyrinthe intérieur et je commençais à plonger dans des traumas ancestraux. Ça veut dire que je voyais des choses qui n'appartenaient pas à ma vie et ni à celle de mes parents, c'était encore plus ancien. J'avais limite l'impression que c'était mes ancêtres. Genre j'avais des flashbacks de plein de trucs, par exemple l'esclavage ou quoi, c'était très étrange. Genre j'avais des mémoires historiques.
Et une fois de la MMA à 20 ans et je m'en rappelle parce que j'ai dansé pendant 7 heures. Apparemment, je m'aimais beaucoup puisque je dansais avec moi-même d'une manière que je n'aurais même jamais osé danser dans cette sensualité-là en public.
Bah, vous avez tout simplement des souvenirs qui remontent de vos ancêtres, parce qu'au final, on a la même ADN, on a la même ADN que nos ancêtres. C'est juste, voilà, le petit-petit-petit-fils, il a, je sais pas, 6,25% de l'ADN. Enfin, moi, je précise. Bon, on va pas se perdre dans les maths, je vais continuer l'histoire. Et j'avais l'impression d'avoir comme des flashs que je devais accepter. C'était comme une douleur que je devais accepter en moi. Je me rappelle, c'était le moment où j'avais vraiment décidé d'arrêter la cigarette et j'en fumais une dizaine par jour. Et pendant le trip, j'essayais au maximum de pas fumer, mais mon cerveau faisait que penser à ça. Et je me suis dit, bon, tu sais que le problème de la cigarette, tu l'as, tu sais que tu veux l'enlever, essaye de voir ce qu'il y a derrière. Essaye de voir ce qu'il y a plus profond derrière et essaye de guérir ça, en fait. Et c'est ça qui m'a fait plonger profondément. Le Huachuma, ça peut faire vomir. Bah, le cactus, c'est comme l'ayahuasca, il y a beaucoup de chances de purger. C'est-à-dire, moi, toutes les fois où j'ai pris une vraie dose, bah, j'ai vomi sa race, en fait.
Je refais, du coup, une seconde session de MDMA, accompagnée. Et c'est très important d'être accompagnée. Et à ce moment-là, je canalise.
C'est difficile de mettre des mots sur ce genre de choses parce que tous les mots passent à côté de l'expérience. Donc, dès que je raconte quelque chose, on se fait une image et puis elle n'est pas juste.
Quand on prend un psychédélique, au début, il ne se passe rien. Et puis, on sent l'effet qui monte. On peut, par exemple, avoir des crises d'hilarité. On peut, au contraire, être profondément anxieux. Éventuellement, on peut ressentir quelques nausées qui vont passer. Et ensuite, on se retrouve dans un état qui est vraiment très difficile à écrire, en tout cas avec une perturbation de toutes les modalités sensorielles. Donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, mais aussi les autres sens, comme la proprioception, la thermoception... Donc tout ça est profondément modifié, éventuellement des phénomènes de synesthésie, c'est-à-dire si vous entendez un son, ça va se traduire par une vision ou une déformation particulière d'une hallucinose ou d'une forme colorée qu'on va percevoir.
Le rôle du chaman est de servir de guide. Et si vous n'avez pas le chaman et vous n'avez pas les chants, c'est un petit peu comme aller faire de la haute montagne sans prendre un guide de montagne. Vous êtes perdu.
Et du coup, ces cérémonies sacrées de ces médecines originelles me permettent de guérir une dépression profonde et chronique que j'avais pas. Je sentais bien que j'avais des hauts et des bas, mais en même temps, je suis quelqu'un de très actif, plutôt joyeux, plutôt battant. Du coup, j'avais jamais relevé le fond, ces hauts et bas, que c'était finalement quelque chose d'un peu chronique en moi.
Le cadre, donc vous avez mentionné ça, peut-être on peut revenir. On ne donne pas, en fait, ce qu'on a compris avec les années, c'est que l'erreur, c'est de juste prendre la dose comme ça. Il y a tout un accompagnement clinique extrêmement important, et ce qui est assez lourd, au fond. On comprend, ça pose beaucoup de problèmes, puisque peut-être on pourrait décrire quel est le protocole qui est mis en œuvre pour donner ces substances dans les différents hôpitaux qui la donnent aujourd'hui.
Je pense que pour moi, l'accompagnant doit avoir pris, et pas qu'une fois, des substances pour comprendre ce qu'évoque la personne. Il doit avoir des notions de transpersonnel, aussi bien transgénérationnelles que les matrices prénatales, que les archétypes, les symboles, que tout ce qui va être les autres vies, les contacts extraterrestres, les contacts avec les êtres de lumière.
Alors oui, j'ai été catapulté comme un bébé de 3 mois. Et puis j'étais là, on peut dire, comme complètement perdu dans l'univers. Je me souviens encore que j'avais les jambes et les bras écartés, puis que je flottais je ne sais où. Et c'était la panique totale, la peur, peur existentielle profonde, je dirais. Et puis, heureusement que j'avais quelqu'un qui m'accompagnait, justement, et puis qui m'a tenu la main, rien que ça, pendant les moments où j'étais, dans le fond, complètement perdu. Et puis, après, au moment où j'ai atterri de nouveau, on peut dire, ben j'ai senti comme une sérénité, une force aussi en moi, que je ne connaissais pas.
On avait trouvé des champignons dans un champ. Enfin, mon conjoint avait trouvé ça à Maurice. Et en fait, en prenant du coup, en faisant cette cérémonie-là, ce soir-là, ça m'a fait comme une métaposition. Ça m'a mis en recul de mon mental, en recul de mes pensées. Et ça m'a fait voir littéralement mon cycle de pensée infernale dans lequel j'étais enfermée.
Je viens consommer comme vous le faites, vous, pour voir, pour être en relation avec là-haut, et puis ensuite pour me diffuser, me dissoudre avec tout le reste.
On est là dans une tradition initiatique. Et le propre des traditions initiatiques est de révéler ce que la personne a de meilleur en elle-même et de le faire s'exprimer. L'ayahuasca peut vous procurer des expériences mystiques phénoménales. Une session d'ayahuasca fortement dosée, c'est une expérience de mort imminente.
Mais des plantes qui viennent parler au chaman durant une cérémonie, comment ça s'explique?
Mais elles viennent même chanter au chaman.
Et
j'ai observé une perte de la notion du temps. Le temps dans ma tête passait beaucoup plus rapidement. Quand j'avais l'impression que 10 minutes s'étaient écoulées, en réalité, ça faisait 2 minutes.
D'ailleurs, hein, quelques semaines plus tard, c'est là où j'ai fait ce que mon accompagnant, au cours de cette cérémonie, a appelé le samadhi, c'est-à-dire l'expérience du soi, l'expérience de l'unité.
La troisième fois, c'était beaucoup plus puissant. Je me rappelle que les visuels que j'avais, je regardais la montagne et je voyais la montagne se mélanger au ciel comme ça. C'était assez surprenant. Et à un moment, un truc magnifique qui m'est arrivé, on était dans la nature et là, je vois un rocher qui me fait une déclaration d'amour. J'ai l'impression que l'univers, il me fait une déclaration d'amour de malade. Il me dit, tu peux la prendre ou tu peux ne pas la prendre. Et moi, je suis en mode, je peux pas rater ça, en fait. Du coup, je viens et je m'allonge sur le rocher et je m'en fous. Genre, j'ai mes sandales qui tombent et tout. Et je m'oublie complètement. Je disparais. J'ai l'impression de plonger dans le minéral. Genre, j'ai l'impression de devenir la pierre et de comprendre le savoir du minéral. Je sais pas comment expliquer, c'est comme si on se dit les pierres, ah, elles sont mortes, elles sont pas vivantes, mais en soi, énergétiquement, le savoir qu'elles ont, il est immense. Genre, c'est. Même si c'est une dimension en dessous, on a l'impression, c'est en même temps une dimension au-dessus, vu qu'on n'est pas dans un axe vertical. Je sais pas si c'est forcément clair à expliquer.
On peut voir des matrices prénatales, Stanislas Grof en parle beaucoup et très très bien, des matrices prénatales, où il se passe tout un tas de choses qui vont conditionner également nos comportements justement ensuite dans notre quotidien. Mais on va aller voir également des autres vies, par exemple. Et puis on peut rencontrer d'autres êtres, tout simplement ce que j'appelle des êtres de lumière, des archanges, des matrices. Moi j'ai vu des matrices également, je suis assez en lien avec Marie, la matrice de la création, elle s'est présentée en tout cas ainsi. J'ai déjà eu par exemple des chamans amérindiens venus en présence, j'ai déjà vu des chamans également sud-américains venus en présence. Il faut aller voir des choses très lumineuses, comme nos chers disparus, par exemple.
La quatrième fois, c'est la fois où j'ai eu le plus de visuels. C'est-à-dire que j'avais pris encore plus, parce qu'en soi, je voulais découvrir. C'était un des rares psychédéliques que j'avais pas encore testé. Et quand je suis parti, quand je suis vraiment parti, c'était vraiment très profond. Ça me portait loin dans mes souvenirs intérieurs, dans tout ce qui était peut-être maléfique en moi ou démoniaque, ou mes démons en fait. J'ai plongé dans mes démons et je les ai vus en face de moi, mes traumas, mes flashbacks, etc. Et je me rappelle que j'étais tellement concentré sur ça que je faisais pas attention au visuel.
Je connais des personnes qui ont revécu, mon conjoint a revécu le Big Bang par exemple, et toute l'histoire de l'humanité.
Ensuite, on va pouvoir expérimenter des directions complètement inhabituelles de la pensée. Une manière de réfléchir et de penser qu'on ne peut pas décrire et qui se situe uniquement dans cet état-là, complètement altéré par rapport à un état ordinaire. On peut aussi avoir la sensation de vivre une expérience sacrée. Et ça, c'est vraiment très intéressant du point de vue, je pense, de la philosophie, de l'anthropologie, de l'histoire des religions.
Personnellement, oui, je crois qu'il existe une âme. Je crois qu'il existe... d'autres dimensions, qu'il existe d'autres planètes, d'autres êtres également venant d'autres galaxies, mais également d'autres êtres venant d'autres dimensions, et que tout est simultané et tout se superpose en même temps, et que en réalité tout est déjà là, mais un peu comme une radio où on va se connecter à certaines fréquences. Et bien, selon la fréquence à laquelle on se connecte, on va capter cette réalité-là, ou plutôt une autre, ou plutôt une autre. Et que les psychédéliques permettent justement l'ouverture, on va dire, pour pouvoir capter d'autres fréquences.
Ils me regardent, je les regarde, ils me regardent, je les regarde, ils me regardent, je les regarde, ils me regardent, je les regarde. Et là, ah, en fait, je suis perché.
Nous sommes la création. Nous sommes aussi bien dans la création que la création, en fait. La création, j'ai envie de dire, c'est toute chose qui existe, tout être qui existe. C'est ce qui est vraiment, qui m'a été montré, c'est ce qui m'a été fait ressentir de nombreuses fois au cours des cérémonies. C'est cet état d'unité, en fait. C'est cet état de un, en fait, on est un. Et on est amour, on est lumière, et soit on n'est pas, ça c'est la grande vacuité, soit on est tout, de tout temps, de tout lieu, pour toujours.
D'un seul coup, les mecs et tout, ils commençaient à avoir des petits cornes, des petits yeux démoniaques, comme ça, tu sais. Et je les voyais comme le mal incarné et tout, tu sais, c'était trop bizarre, je me suis tapé ma putain de parano de ouf, quoi.
À certains niveaux de conscience, tu comprends qu'en fait, tout est là, de tout temps, en tout lieu. Donc en fait, tu comprends que le libre arbitre n'existe pas. Tu crois que tu as le libre arbitre, mais en fait non. Tu réalises que tu as juste à être là, présent, et à accueillir, à accepter ce qui vient.
Les mots sont trop petits même pour décrire ça. Quand je vous dis amour, c'est une sensation d'amour qui est indescriptible, que j'ai jamais vécue dans cette vie humaine, quoi, qui est vraiment quelque chose qui m'a submergée, qui est immense. On pourrait appeler ça peut-être de la grâce.
J'étais pendant la cérémonie effrayée, c'est vraiment, j'ai eu peur. Je me sentais engluée dans la matière, littéralement, comme si finalement il n'y avait aucune différence entre moi, l'appartement, le sol. J'étais exactement au même niveau que la matière. Et quand je suis revenue, du coup, cette dissolution d'ego était terriblement effrayante, en fait. J'essayais de me raccrocher.
J'ai piloté des nuages.
Quand je bougeais mon bras, je voyais, j'avais l'impression de voir mes corps subtils, en fait. J'avais des traits lumineux de ma main sur plusieurs... Tu vois, je faisais ça et je voyais 3-4 mains, comme ça. Donc c'était... Et ça, c'était le troisième jour encore.
J'ai amené des nuages sur une free party.
Avant de croire, avant de réaliser que finalement j'étais la matrice, je me croyais enfermée dans une matrice. C'est-à-dire que tout est fractal et du coup je voyais cette fractalité sans fin, sans début, sans fin, sans haut, sans bas, infinie en fait. Et j'avais l'impression d'être enfermée dans cette matrice jusqu'à ce que je réalise que j'étais la matrice en fait.
J'ai comme vu la source de vie, j'ai vu d'où on venait, j'ai vu où on allait. J'ai vu pourquoi j'avais choisi cette vie, j'ai vu pourquoi j'avais choisi mes parents.
Je dialoguais un jour avec ma lampe. Et d'un seul coup, quand j'ai réalisé que je canalisais avec mon lustre, j'ai quand même mon esprit critique à ce moment-là pris le dessus en disant « Tu es en train d'échanger avec un lustre, en fait. » Et d'un seul coup, j'entends « Oui. » Car nous sommes en toute chose.
Je me sens super mal, je vois des araignées et des serpents partout. J'ai l'impression que c'est en train de me dévorer de l'intérieur, c'est atroce.
Expérience ultra violente. Je vomis avant l'extinction des bougies. Je reste un moment la tête dans le seau tremblant et haletant. Les visions commencent tout de suite. Je traverse d'abord un monde de lianes noires, très brièvement, puis des flashs de lumière et de couleurs très, trop vives, comme un court-circuit. Je ne maîtrise plus rien et perds toute notion. Mon corps entier est pris de spasmes et de contractions. Je vomis plusieurs fois très violemment, puis mon corps lâche et je m'affale. Je sens que je vais mourir, j'ai peur, mais n'ai pas la force de réagir. Je comprends que je vais devoir accepter de lâcher le dernier souffle.
Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait des visuels, c'était un truc de malade. Je me rappelle, j'étais avec mon ex-copine, elle m'avait fait un sourire et je voyais des arcs-en-ciel partir de ses yeux et partir dans l'air. À un moment, je descendais des escaliers, je voyais mes pieds qui marchaient sur mes épaules. C'est-à-dire que concrètement, il y avait mes pieds comme ça, je descends les escaliers, j'ai l'impression que mes pieds se posent sur mes épaules pour marcher. Et voilà, après j'avais plein de visuels étranges, j'avais l'impression qu'il y avait des portes, des mondes. Et franchement, ça m'avait surpris, parce que j'étais pas souvent allé aussi loin visuellement. Et quand je l'étais, c'était avec un mélange de substances.
Si moi, la personne, elle me parle de bisounours en train de se faire des grands jets de lumière qui rayonnent sur le monde, eh ben, c'est OK.
On est comme projeté dans le monde des rêves, mais de manière totalement lucide. Donc le cerveau ne fait plus la différence entre ce qu'on appelle la réalité physique et le monde des rêves. Donc quand on est en train de mourir, on est en train de mourir, ça ne fait pas un pli. Et là, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'étais en train de mourir, je devais accepter ma mort. Et le simple fait de pouvoir faire cette expérience, que je pourrais pas faire avant de mourir pour de vrai dans ce monde physique, eh bien ça amène une nouvelle compréhension de la vie, un sacré lâcher prise. À partir du moment où on a pu accepter sa propre mort, ça laisse des traces indélébiles.